En ce 24 décembre, la veille de Noël, je crois tout à fait à propos de parler d'une Québécoise. Mademoiselle Emma Curotte, on dira pourquoi parler d'Emma Curotte. C'est que c'est bien surprenant et quand on étudie sa vie, on s'aperçoit que c'est quelqu'un de merveilleux, une femme de chez nous, qui a en somme fondé, si on peut dire, le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs de Chersey. Elle est morte il y a 65 ans, aujourd'hui. En effet, elle est décédée à Chersey, après avoir fait des choses remarquables, étonnantes, et ça vaut vraiment la peine de s'intéresser à elle et à ce qui se passe aujourd'hui chez elle, non seulement ce qui se fait sous l'égide de la congrégation des Pères des Saints Apôtres, mais aussi l'arrivée récente des moines et des moniales de Bethléem, l'une des communautés les plus retentissantes et les plus merveilleuses de l'Église. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Quand on parle d'Emma Curotte, la plupart des gens s'imaginent qu'est-ce que c'est que ça, et ceux qui en ont un peu entendu parler comme moi quand j'étais plus jeune, se disent « il ne faut pas parler de cette femme qui était peut-être un peu curieuse, un peu étrange ». C'est qu'à l'époque, on jugeait avec plus de sévérité peut-être les attitudes de ceux que l'on peut qualifier comme des saints, des gens qui sont un petit peu à part des autres sous certains rapports. Son grand-père était de Châteauguay. Et il avait épousé en première noce une demoiselle Reed. Il a eu de cette femme un fils qui s'appelait Philippe. Son grand-père s'est remarié, a eu d'autres enfants, dont l'un qui est devenu monseigneur et chanoine de la grande basilique du Latran à Rome, où il est décédé. Monseigneur Arthur Curotte. C'est soit en passant. Donc, le premier fils, Philippe, dont je vous ai parlé, a cherché à faire fortune aux États-Unis. Il a trouvé à faire un peu d'argent à Rockwood, en Pennsylvanie, auprès d'un Américain assez riche, du nom de David Yunken. Et la famille Yunken, qui était de source hollandaise, avait immigré comme ça aux États-Unis. Ils étaient luthériens. Et notre Philippe Curotte y a rencontré, parmi les filles de son patron, celle qui allait devenir sa femme, Joséphine. Et c'est de ce mariage que Emma Curotte va naître. Elle est donc la fille d'un catholique et d'une luthérienne en principe, mais, comme elle l'écrit, « Je suis né en 1890, le 29 mai, à Rockwood, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Mon père était un Canadien français, Philippe Curotte, né à Saint-Philomène de Châteauguay, province de Québec. Et ma mère, d'origine hollandaise, était née à Rockwood, aux États-Unis. Elle ne parlait pas le français, mais elle était convertie au catholicisme. Son nom, avant son mariage, était Joséphine Yunken. Donc, du mariage de Philippe Curotte et Joséphine Yunken sont nés 9 enfants. Seulement quelques-uns ont survécu, 3 garçons, 2 filles. Et l'un d'entre eux est venu à Montréal et finalement s'est entraîné la famille d'Emma à Montréal. Elle a été baptisée à l'âge de 3 ans seulement, en l'église Saint-Charles, de la pointe Saint-Charles. Je le signale parce que ce sont des détails intéressants, ça l'incarne dans notre milieu, n'est-ce pas? Elle a été baptisée par son oncle, ce monseigneur Arthur Curotte, dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui est mort à Rome. Chanoine de la grande basilique du Latran. Vous savez que la basilique du Latran, c'est la basilique principale, première de notre Église, et non pas Saint-Pierre de Rome. C'est surprenant, hein? Une sœur d'Emma Curotte, Elisabeth, est devenue petite sœur des pauvres. Elle est morte à Long Island, aux États-Unis, à 33 ans seulement. Et Emma est demeurée l'unique fille. Alors, la langue première d'Emma Curotte au foyer était l'anglais à cause de sa mère américaine. Mais son éducation s'est poursuivie comme ça en anglais, même ici. Et elle dira elle-même, « J'ai fait mes études en anglais, j'ai étudié l'anglais plus que le français. » Ce qui se remarque dans les notes qu'elle a rédigées, elle a écrit, c'est des notes, elle appelait ça des messages. C'est à l'école Saint-Willibrord, à Verdun, où la famille avait déménagé, après avoir vécu quelque temps à la Pointe-Saint-Charles, qu'elle a fait ses études sous la direction des sœurs de la congrégation Notre-Dame, des sœurs anglophones. C'est là qu'elle a continué ses études. Puis, elle était ensuite tour à tour professeure d'anglais à cette même école. Elle était secrétaire dans un bureau. Et elle avait des connaissances pour l'époque assez avancées en sténographie, en dactylographie. Et elle-même avait, comme sa sœur, songé à à devenir religieuse. Sa sœur qui est devenue petite sœur des pauvres. Hein. Quelle communauté remarquable, d'ailleurs, soit dit en passant. Hein. J'ai déjà fait la vie de leur fondatrice, une sainte admirable. Alors, elle disait qu'elle priait beaucoup pour sa propre vocation. Elle dit, j'aurais aimé être religieuse, mais je me croyais bien indigne. Le chanoine Robert me dit un jour, vous allez fonder quelque chose, et vous allez voir que c'est fantastique. Les franciscaines missionnaires de Marie l'attiraient. Je vais faire leur fondatrice un séjour, vous allez voir, c'est passionnant. J'ai toutes sortes de projets, comme vous voyez. En cette veille de Noël, je pourrais vous parler de 1000 projets que j'ai, si Dieu me prête vie. Et Emma Curot disait, un jour que je pensais à cela, d'entrer chez les sœurs missionnaires, les franciscaines missionnaires de Marie, elle dit, j'ai regardé une image de la fondatrice des religieuses franciscaines dans ma chambre. Et l'image s'anima, et le visage de la religieuse semblait me faire un signe signifiant non. Et sur le mur opposé, je vis une statue de la Sainte Vierge s'illuminer. Quoique sur ce mur, il n'y eut aucune statue. Alors on tombe dans le merveilleux et on se demande, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette femme? Faut dire que dans ses messages, Emma Curot rappelle de temps en temps des manifestations de ce genre. Et ça a fait beaucoup de difficultés à son sujet auprès de certaines autorités ecclésiastiques du temps. Parce qu'il faut se rappeler à ce sujet la doctrine de l'Église. Je cite, « Les siècles chrétiens présentent une série presque ininterrompue de voyants, porteurs de messages et de révélations. Le jugement à leurs propos est en revanche variable, passant de l'enthousiasme à la méfiance selon les périodes. » Et dans l'Osservatore Romano de 1995. Le père Garrigou Lagrange, fameux dominicain, a écrit de son côté, « Ceux qui reçoivent des révélations divines, reconnues comme telles, après un jugement prudent, doivent très certainement s'incliner avec respect devant cette manifestation surnaturelle. » Puis le même auteur, le père Garrigou Lagrange, il note cependant que, même dans celles qui sont approuvées comme probables par l'Église, il peut se glisser quelques erreurs. Dans cet article du Père Guindon, dont je m'inspire, le Père Guindon ajoute, c'est que le voyant peut attribuer à l'Esprit-Saint ce qui procède de son propre fond, ça arrive, hein? Ou bien il peut mal interpréter une communication vraiment divine, sa mémoire peut flancher, il peut tout à coup devenir un peu trop imaginatif. Et c'est pourquoi le Père Guindon dit, cette personne doit s'en remettre au jugement d'un directeur prudent. De toute façon, revenons à Emma Curot, la maladie de ses parents de 1924 à 1926, année de la mort de son père, lui a pas permis de poursuivre son projet de se faire franciscaine missionnaire. Elle a compris que son devoir était de subvenir d'abord aux besoins de ses parents. Et le 30 septembre 1930, c'était au tour de sa mère de mourir. Et c'est en regardant, dit-elle, une image de Notre-Dame du Bon Conseil, qu'elle est morte, sa mère, après avoir eu le bonheur d'adhérer, depuis 18 ans, soit depuis 1912, à la foi catholique, elle qui était luthérienne. Car il y a une grande joie, souvent, m'ont dit bien des protestants qui se sont convertis, d'appartenir à cette grande Église universelle. Il y a comme tout à coup une joie et des larmes qui sont surprenantes, de ne plus être dans la division. Pourtant, où il y a tellement de choses superbes dans l'Église luthérienne, Dieu sait qu'il y a de très belles choses. J'aime beaucoup, moi, personnellement, les luthériens que j'ai connus. Et le père d'Emma était à l'emploi des chemins de fer nationaux, là, le Canadien national. Et ce fut durant une période où il était employé comme ça, qu'il a acheté d'un russe polonais un terrain de 5 arpents de large sur 1 mille de long. C'est immense. Hein? en bordure du lac Beaune, à 70 kilomètres au nord de Montréal. Ce coin de terre, qui est situé dans la présente localité là, de Saint-Théodore-de-Chersey, à 18 kilomètres environ au nord-ouest de Rawdon, dans la vallée de la rivière Waro, est à près de 400 mètres d'altitude. C'est très beau, hein? Colonisé en 1850 par des Irlandais, on lui a donné le nom de Chersey, en souvenir d'une ville d'Angleterre, du comté de Surrey, au sud de Londres. D'ailleurs, une anecdote en passant, le fameux Antoine de Saint-Exupéry, le célèbre pilote écrivain français qui est disparu en plein ciel en 1944, mais il a séjourné quelque temps dans ce petit village. La toponymie, comme on dit, l'appellation des lieux officiels ignorait dans ce temps-là les noms des trois montagnes de l'endroit. Emma Curotte leur donne, quelque temps plus tard, des noms. La première montagne, Marie-Reine des Cœurs. Deuxième, Christ-Roi. Et la troisième, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Une femme qui l'a rencontrée, Mary Teresa Fisher, l'a rencontrée pour la première fois en 1948, alors qu'Emma Curotte avait déjà 58 ans. Et elle a fait un récit intéressant. Une demoiselle Lena Brady, qui vivait à la résidence des Sisters of Service sur le boulevard de Chester, maintenant le boulevard René-Lévesque, là. Je me souviens des Sisters of Service. Elles étaient dans la maison dont la façade a été conservée quand on a construit ce beau musée d'architecture, vous savez, près de l'autoroute, là, dans l'ouest du boulevard d'Orchester. Il y a un musée, là, pour nous garder une façade. Les Sisters of Service étaient là. Alors, Lena Brady était à organiser un pèlerinage au sanctuaire de Marie-Reine des Cœurs de Chersey. Elle a dit, « Je dois admettre que la curiosité n'eut pas un mince rôle dans ma décision de faire ce premier pèlerinage, de voir et de parler avec une femme qui avait vu, selon ce qu'on rapportait, la Sainte Vierge. Et tout ça, puis vendre le billet. La première rencontre avec Mademoiselle Curotte en est une que je n'oublierai jamais, dit-elle. Je ne sais pas ce que je m'attendais de voir, mais ce que j'ai vu m'impressionna terriblement. Et de façon assez surprenante, à mon avis, elle était une personne très ordinaire, une femme de stature imposante, assurément, avec les deux pieds solidement posés sur le sol. Pas d'aile, ni autre qualité céleste, mais ce qui m'a impressionné le plus, ce sont ses yeux. Toute sa personnalité était concentrée dans ses yeux bleus, d'un bleu clair, mais d'un éclat qui semblait chercher le plus profond de l'être de la personne à laquelle elle parlait. Ses yeux riaient facilement, mais je suis sûr qu'ils avaient aussi leur part de larmes. Et si les yeux sont les fenêtres de l'âme, alors cette âme d'Emma Curotte brillait avec autant d'éclat que l'étoile du soir. Impossible de l'expliquer, mais ceux que connurent Emma savent ce que je veux dire. Sans rien d'autre, ses yeux me convainquirent qu'elle avait vraiment vu quelque chose de très éloigné de l'ordinaire. Elle est entrée dans le tiers-ordre de Saint-François en 1906 à l'âge de 16 ans. Elle a eu dès cet âge un directeur spirituel, un franciscain, et à partir de l'âge de 18 ans, elle s'est confiée à un jésuite, le père Gamache, puis ensuite au père Payne. Lorsque quelqu'un, et c'est très intéressant, lui demandait de prier, elle répondait, « Oui, je vais prier pour vous, mais allez donc vous-même à la chapelle et demandez à la Sainte Vierge de vous aider. C'est ce qu'elle veut. » Et on disait d'elle, elle n'a jamais joué à la sainte. Elle ne prenait pas d'attitude et puis de... C'est pas son genre. Certains lui demandaient de les guérir et elle répondait, je trouve ça très intelligent, « Je ne peux pas vous guérir. Je prierai pour vous. » Mais seulement Dieu peut vous guérir. Demandez-lui par sa mère de vous guérir. En somme, elle n'a jamais laissé entendre qu'elle avait des pouvoirs quelconques. C'est Mademoiselle Fisher, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui écrit « Quand j'ai commencé à organiser des pèlerinages, j'avais reçu plusieurs faveurs par la dévotion de la Sainte Vierge. J'ai vu davantage au sujet de Mademoiselle Curotte. J'avais jusque-là seulement ce qu'en disaient les autres. Et j'ai ramassé assez de courage pour lui demander si elle avait déjà vu la Sainte Vierge. Et elle a répondu, oui. Mais mon confesseur m'a demandé de ne pas parler de cela parce que les gens ne semblent jamais prendre ces choses de façon correcte. Et les histoires sont rapportées non seulement comme demi-vérités, mais parfois de façon totalement fausse. Et c'est ainsi qu'avait couru une histoire au sujet d'un poil miraculeux, qu'elle était censée avoir eu, et qui avait chauffé continuellement sans être jamais alimenté de bois. Alors, l'imagination populaire, c'est très dangereux quand on entoure une femme comme ça, ou un homme. L'imagination populaire réduit ces gens-là à l'état de fanatiques ou de sots et d'idiots. C'est très dangereux. Très dangereux. Alors, les légendes ont couru. Lorsqu'elle songeait à devenir religieuse sans pouvoir réaliser son projet, bien, cet abbé Robert, là, qui la guidait, lui avait dit, là, vous allez fonder quelque chose, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure. Bien, il faudra attendre jusqu'en 1930 pour que cette parole se réalise. C'est le 23 mars 1930, et c'est ce qu'elle écrit, que la Sainte Vierge m'a dit, mon enfant, je vais vous charger d'une mission. Et elle raconte dans son texte, Emma Curotte, elle m'a fait comprendre que j'étais libre d'accepter. Plus tard, en 1931, que c'était pour la chapelle sur le terrain que mon père m'avait laissé avant sa mort en 1926. À cette époque, j'ignorais les raisons pour lesquelles mon père m'avait donné ce terrain, par la volonté de la Sainte Vierge. Alors les messages de Marie vont préciser par la suite ce qu'elle désire. Vous direz que j'accepte les messages de Marie. Je suis porté à les accepter, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Toujours en cette même année 1930, elle raconte, la Sainte Vierge m'a dit, il faut propager ma gloire. Et elle m'a fait savoir que cette propagation serait universelle et publique, que je serais obligé de la faire connaître partout. C'est une étrange mission et qui s'est réalisée. Oui, ça s'est réalisé, c'est merveilleux. Comme je me trouvais indigne d'une telle faveur, écrit Emma Courette, j'ai répondu, vous avez beaucoup de religieuses et de saintes personnes pour faire cette propagation ou cette mission. Et la Sainte Vierge m'a répondu, ce n'est pas eux que j'ai choisis, mais vous. Alors, en cette même année 1930, elle y était venue avec sa mère passer quelques jours à Saint-Théodore de Jersey, dans la vieille maison, là, sur le terrain que son père lui avait laissé à sa mort en 1926. Elle avait apporté avec elle une petite statue de la Sainte Vierge et de l'enfant Jésus, que maintenant, dit-elle, la Sainte Vierge m'a inspiré de placer à un érable sur une tablette, et plus tard, c'était l'endroit même où devait être bâtie la première petite chapelle à Marie, Reine des Cœurs. C'est un beau titre, quand on y pense. Ça peut avoir l'air quétaine, mais ça n'est pas quétaine. C'est très beau. Elle est reine de nos cœurs. Oui, elle conduit nos cœurs vers Jésus. C'est très beau. Mais les mots « reine » et « roi » sont passés de mode. Avec la conduite de nos familles royales, c'est pas drôle de nos jours. Et de toute façon, on n'aime plus tellement ça. On a l'esprit républicain, on n'aime pas ça. Et moi, je suis pas très royaliste, loin de là. Alors, elle raconte, ma mère me dit, « Que fais-tu là avec cette planche et ces clous rouillés ?» Et j'ai dit, « Je me fais un hôtel. » Et après l'installation de cette petite statue, la Sainte Vierge à l'érable m'a dit, ce terrain ne sera ni vendu, ni loué. Les prêtres adoreront sur cette montagne. C'est ce qui est arrivé. Et elle continue. Chez nous, à Montréal, au 5753 rue Bordeaux, elle m'a dit de ne pas vendre ce terrain parce que ce terrain lui appartenait, parce que j'avais fait acte de donation et d'esclavage en me vendant à elle. Elle s'était consacrée à la Sainte Vierge. Avec mes biens et pour l'offrande, j'avais mis 25 sous dans le tronc de l'église Notre-Dame de la Paix, Verdun, ne sachant encore rien de la chapelle à cette époque. Alors, la date est précisée, c'est le 2 février 1931, à 2h du matin. Une date mémorable, et ma curotte décrit longuement, avec un luxe de détails, cet événement. Elle écrit, « Quand le temps est venu pour avoir sa chapelle, la Sainte Vierge me réveilla à 2h du matin. Je l'ai vue jeune, à peu près à l'âge de 13 ou 15 ans, d'une beauté extrême. Elle n'avait pas de voile, et elle m'a dit, « Vous êtes proche de votre faveur, comme on jette une pierre. » Elle m'a dit que c'était le curé Victor Robert qui bâtirait sa chapelle, qu'il ne refuserait pas. Elle m'a dit qu'elle avait des raisons pour lui demander, et c'est ce qui est arrivé. Le 15 août 1931, l'abbé Robert, qui se rendait à Jersey avec la permission de Mgr Papineau qui lui a fait des difficultés, car comme une grande quantité d'entre nous, n'est-ce pas, était très hésitant devant ces manifestations-là. Alors donc, l'abbé Robert se rendait pour y commencer la construction d'une chapelle qui a été terminée le 12 septembre, et Emma Curotte est heureuse de souligner que la construction commençait en cette fête de l'Assomption par une très belle journée. Et il y a eu une nouvelle chapelle moderne depuis quelques années à peine, et Mgr Lucier, l'évêque de Joliette, l'a bien consacrée à l'Assomption de la Vierge. Il faisait très chaud et le soleil rayonnait, dit-elle. Le soir précédent, elle était allée prier à cet endroit, au pied de la petite statue à l'érable, et en route, elle a été assaillie. Assaillie, dit-elle, par un démon, qui a présenté toutes sortes de richesses, bijoux, des ors, etc., pour la dissuader d'entreprendre cette construction. Alors, il y a des manifestations étranges, on se croirait rendu au Moyen-Âge, et pourtant, de telles manifestations ont existé chez le curé d'Ars, comme je vous ai déjà dit, et elles sont authentiques, semble-t-il. Et de même avec d'autres saints, même dans ce siècle-ci. Peut-on y croire? Libre à vous, libre à nous, l'Église ne nous oblige à rien dans ces domaines. Dans l'Église catholique, nous sommes beaucoup plus libres que nous pensons. Quand le curé Robert est arrivé, il se rend avec Emma Curotte à l'endroit où elle a placé une statue de la Vierge et de l'Enfant Jésus sur un érable, et les deux s'agenouillent, récitent le chapelet. Ensuite, le prêtre bénit le terrain, où s'élèvera la chapelle, comme la Sainte Vierge l'a demandé, pour chasser les mauvais esprits de l'endroit, avait-elle dit. Elle fut bénie en bois de l'érable et recouverte de tôle. Elle fut finie, c'est-à-dire en bois de l'érable. Elle mesurait 13 pieds par 16. Emma Curotte, cette petite chapelle, avait posé la première pierre et le premier clou dans le premier soliveau de la fondation. Elle disait, selon la demande de la Sainte Vierge, j'ai aussi enterré sous cette construction une grosse bougie, car la Sainte Vierge m'a dit, enterrer une grosse bougie sous la chapelle en symbole de la grande lumière qui doit sortir de cette œuvre. C'est surprenant, mais c'est très beau. C'est très beau. Après la construction de la chapelle, l'arbre, qui était plein de vigueur et de santé lorsque la statue y fut placée, a séché. Et cette chapelle fut complètement détruite par un incendie dans la nuit de Noël 1944, alors qu'un père jésuite devait y célébrer la messe de minuit. Pardon. La statue de Marie, reine des cœurs, y a été installée durant l'hiver, avec toutes les difficultés occasionnées par la saison. Et transportée par chemin de fer jusqu'à Rawdon, elle a fait le reste du chemin 15 milles, avec un attelage de chevaux par des chemins praticables, et Emma Curotte, par un froid intense dont elle a ressenti la morsure, accompagnait la statue. Cette statue, dans l'incendie dont je vous ai parlé, sera sauvée, pour ainsi dire miraculeusement, par deux jeunes scouts à qui Emma Curotte avait demandé d'aller la chercher alors que la chapelle était en flammes. Alors les jeunes garçons avaient dit « Nous allons nous brûler ». Elle avait dit « Non, non, allez ». Ils sont entrés au milieu des flammes, ils sont revenus avec la statue sans être brûlés du tout malgré le brasier épouvantable. Alors, dans la chronique du sanctuaire, en 1936, vient la découverte d'une source. Et la Sainte Vierge, écrit Emma Curotte en différents temps, là, m'a inspiré qu'il y aurait une source, mais rien de plus clair. Et cette source est toujours là. Source d'eau vive, source d'eau qui nous rappelle la grâce, et surtout la grâce de notre baptême. L'eau est extrêmement importante, souvent dans ces lieux de pèlerinage, parce qu'elle nous rappelle les sources mêmes de notre vie spirituelle intérieure. Le moins que l'on puisse dire au sujet d'Emma Curotte, cette Québécoise étonnante, bon, sans faire une étude complète de la vie mystique de cette femme, c'est que sa mission a été assez fortement controversée, comme dit le père Guindon. Un oblat de Marie-Immaculée qui a écrit ce très beau texte dont je m'inspire. Ses messages, surtout, quand il semblait s'adresser aux autorités ecclésiastiques, n'avaient pas l'air de plaire à ces autorités. Elle raconte qu'en 1935, au cours d'une visite à l'évêque de Joliette, « J'ai dit, dit Emma Curotte, que la Sainte Vierge désirait savoir Quel signe son Excellence voulait avoir concernant la chapelle, afin de donner la permission de célébrer la Sainte Messe dans cette chapelle? Alors l'évêque répond, « Je ne donne pas d'ordre à la Sainte Vierge. » Vous savez, ce cas n'est pas nouveau dans les vies des saints. Même les gens de bien, les gens qui ont des responsabilités, et c'est terrible d'avoir des responsabilités d'évêque devant ces choses-là. Je voudrais pas me voir à leur place devant des phénomènes pareils. Quelles difficultés ils doivent éprouver dans certains cas, hein? Parce que, comment comprendre si c'est vraiment de Dieu? Sainte Thérèse d'Avila, d'ailleurs, l'a expérimenté. Elle a écrit, Sainte Thérèse d'Avila, c'est... on peut trouver ça dans des études sur elle. « Je me voyais condamné par les gens de bien. Cette épreuve, je la regarde comme des plus sensibles. Hein? C'est les choses les plus déchirantes. » L'histoire de Bernadette, c'est la même chose, hein, à Lourdes. Vous vous souvenez? On ne la croit pas. C'est pareil à Medjugorje, c'est pareil partout. Il faut beaucoup de prudence. N'accusons pas les évêques, et cet évêque, moi, je n'ai aucun... Ça ne me choque pas du tout. Pas du tout. Au contraire, ça me fait même plaisir. En 1936, le 4 juin... À 4 heures de l'après-midi, note-t-elle avec précision, alors qu'elle avait beaucoup de peine d'être persécutée, Emma Curotte reçoit la visite de qui? Du frère André, dans sa vieille maison. Il m'a dit qu'il m'aiderait, que cela deviendrait comme Lourdes. C'est le frère André qui dit ça. C'est en train de le devenir, d'ailleurs. Le frère André lui dit que le démon n'aime pas la Sainte Vierge, mais ça, c'est pas nouveau, hein, on le sait. Et qu'il fera tout pour empêcher qu'elle soit honorée ici, à Chelsea. Que de saints prêtres iront contre cette chapelle, mais que je réussirai, m'a-t-il dit. Elle ajoute à sa visite à la chapelle, il s'est agenouillé humblement, le frère André, sur le plancher, et respectueusement, il regardait la statue de Marie, reine des cœurs, en la priant. Il m'a dit, « Les démons vont tout faire contre cette chapelle. Elle aura tout ce qu'elle veut, la Sainte Vierge, quand même. Vous allez avoir beaucoup à souffrir. » Et en partant, il m'a donné la main, comme un signe d'amitié, en disant, « Vous allez réussir. » Alors déjà, le 15 août 1931, l'abbé Robert avait commencé la construction de cette chapelle, muni de la permission, finalement, de Mgr Papineau. À l'automne de 1938, à l'époque où l'évêque de Joliette voulait que je m'en aille de Chelsea, et que les gens me calomniaient, racontait ma curotte, je suis allé prier la Sainte Vierge dans ma chapelle et je lui ai confié ma détresse. J'avais froid, la chapelle n'était pas chauffée. Après mon entrée dans la chapelle, elle m'est apparue et d'une voix suppliante, elle m'a dit, ne partez pas d'ici. Je vais faire mon chez vous, mon chez nous, c'est-à-dire ici. Quand je suis allé à Bethléem, tout le monde m'a refusé et je n'avais pas de place. Mais oui. C'est ce qu'on célèbre la veille de Noël. On a refusé à la Sainte Famille, à Joseph et à Marie, un lieu. Allons-nous refuser, nous, dans notre cœur, de loger Jésus? C'est la question qu'on peut se poser ce soir. Emma Curotte raconte plus tard, c'est dans cette maison... à 4251 rue Bordeaux à Montréal, où elle demeurait, que le père provincial des Jésuites, en 1943, est venu chercher les clés de l'oratoire pour y célébrer la messe dans la chapelle de Marie, reine des cœurs. C'était le lendemain de la fête de la Sainte Trinité. Le père provincial a célébré la première messe et les pères jésuites ont continué dans ma première chapelle. Et le 20 juin 1943, les pères jésuites arrivèrent à l'oratoire de Marie, reine des cœurs, pour célébrer la messe le lendemain 21 juin. Alors, la vie spirituelle d'Emma Curotte n'est connue que par les quelques messages qu'elle a laissés, écrits de sa main. Pour certains de ceux qui l'ont approché, le tout se résume à quoi? À ceci. Ce serait une visionnaire qui se croit investie d'une mission. Répandre la dévotion à Marie, reine des cœurs, ou plus précisément, la parfaite dévotion à Marie selon Saint Louis-Marie de Montfort. Appeler le Saint-Esclavage, comme on dit, et concrétisé dans cette dévotion à Marie, reine des cœurs. Bon, ben jusque-là, ça dérange pas grand monde. Seule sa personne est en cause à Emma Curotte. Si elle est illusionnée, Elle pourra bien continuer de croire à ses illusions. Ce qu'elle répond n'a pas de conséquences néfastes. Elle pourrait avoir n'importe quelle autre lubie, m'aurait pendu le rosaire, le scapulaire vert, la dévotion au chemin de la croix ou à la sainte face. Comme moi, je répands la dévotion à la sainte face, est-ce une lubie? Bien, quand elle mourra, tout finira dans la paix de son tombeau. Tandis que quelques dévots, croit-on, qui lui étaient fidèles, s'il en reste, continueront ses pratiques. C'est ce qu'on pense. Mais à qui veut y regarder de plus près? Il est peut-être temps, après les faits et la disparition de tout ce qui était inclus là-dedans, de les envisager de façon plus objective et doctrinale, ces faits-là. Si Madame Curotte, Emma Curotte, je devrais dire Mademoiselle Curotte, avait frappé à d'autres portes, le résultat au plan humain aurait pu être tout autre, mais Dieu l'a voulu ainsi. Il a choisi, on peut dire, les acteurs de ce drame. On peut pas refaire l'histoire, hein? Mais il est permis de juger des intentions. Si la vie spirituelle d'Emma Curotte n'a été connue que sous certains aspects par le public, bien elle a été suivie, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure plus haut, depuis sa jeunesse, par des prêtres qui étaient des directeurs consciencieux. Je vous les ai nommés tout à l'heure. Eh bien, Emma Curotte a été tout à fait fidèle à ce que demande la prudence spirituelle. Son obéissance aux autorités ecclésiastiques ne s'est jamais, jamais démentie. Elle a toujours même manifesté de la charité à l'égard de ceux et qui la blâmaient et qui la brimaient. Elle a fait des sacrifices extraordinaires. Elle écrit, d'ailleurs, la Sainte Vierge m'a dit, « Je vais travailler dans votre âme avec plus de rigueur que jamais. Je réserverai des grâces pour votre directeur. Employez tout votre temps à me faire connaître, ne vous inquiétez pas. Suivez les conseils de votre directeur, l'obéissance est toujours récompensée. Avec lui, votre directeur, vous ne vous tromperez pas. » Et elle ne s'est pas trompée. Emma Curotte est d'une très grande simplicité, en cela elle ressemblait à Sainte Bernadette. Hein? Cette démarche qu'elle fait à l'église de l'Immaculée Conception à Montréal témoigne du besoin intérieur qu'elle ressentait d'avoir une direction sûre de la part d'un jésuite et de ne pas se fier à elle-même. À un moment où le démon fait rage contre elle et qu'elle traversait une obscurité spirituelle, le démon lui suggère « Tout cela n'est qu'illusion, tout cela n'est qu'illusion. » Le démon nous dit ça souvent, « Mon Dieu, qu'on s'en sort au fond de notre cœur. Laissez donc tout ce travail, cessez de faire ce que vous faites, vous vous dépensez pour rien, cela n'est qu'illusion, on entend ça au fond de son cœur. » N'en faites pas autant, Dieu n'en demande pas tant, Dieu n'en demande pas tant. On nous dit ça même, il y a des gens qui nous disent des choses comme ça. Mais Marie, de son côté, soutenait Emma Curotte. Elle écrit, elle m'a conseillé de toujours prier, de ne pas agir sans réflexion dans l'œuvre qu'elle me confiait. Elle a toujours montré une grande ténacité, Emma Curotte, dans la poursuite de son destin, mais n'a jamais été une entêtée. Marie lui dit, « Je vais vous conduire par un chemin que les prêtres ne comprendront pas toujours. Je prends les faibles de la terre. Vous ne méritez pas cette mission, mais je vous la donne. » Ça sent l'authenticité, tout ça. C'est peut-être pas vrai, mais ça sent vraiment l'authenticité, à mon avis. Un jour, à la demande de la Sainte Vierge, elle dit, « Je suis allée voir les autorités de Joliette pour obtenir l'ouverture publique de la chapelle. Ils ont refusé. Je suis revenue et j'ai donné la réponse à la Sainte Vierge dans la chapelle. Un jour, la Sainte Vierge m'a dit, « Beaucoup de prêtres viendront et vous aideront dans cette dévotion. Votre mission est sûre et vient du bon Dieu. Ne craignez pas le diable qui met actuellement des obstacles dans votre chemin. Il ne peut pas faire de tort à mon œuvre. » Et on voit que les pères des saints apôtres, à la suite des jésuites, ont pris charge de tout ce travail admirable qu'elle a accompli là-bas. La Sainte Vierge, à un moment donné, lui parle d'une basilique. Et elle parle de construire une basilique. On n'y est pas encore. Le 24 juin 1957, fête de la Saint-Jean-Baptiste, je récitais mon chapelet, dit-elle, à la chapelle du haut de la montagne avec deux prêtres. Le curé Hermas Lavallée, le curé Valois, prêtre séculier de la paroisse Saint-Paul-l'Ermite de Joliette, comté de Montcalm. À la dernière dizaine de mon chapelet, j'ai vu Marie et elle m'a dit, « C'est ici que sera la pierre angulaire. » Est-ce que ce le sera? Toute sa vie, depuis qu'elle a connu vers l'âge de 14 ans le traité de la vraie dévotion de Louis-Marie Grignon de Montfort, Saint-Louis-Marie, Emma Curotte a vécu puis a propagé cette dévotion. Le 11 mars 1937, en réponse à ma demande pour savoir si je devais plutôt prier que travailler, la Sainte Vierge m'a dit « Votre mission n'est pas de rester inactive, mais de répandre ma dévotion partout. » Et le 14 octobre 41, elle m'a dit d'une voix douce et belle, un peu triste, « Votre mission en sera une d'amour et de miséricorde. Faites ce que je vous demande. Il faut que je convertisse tous les prêtres avec cette dévotion. S'ils sont agréables à ma volonté et à celle de mon divin Fils, les prêtres recevront de moi beaucoup de bénédictions. » C'est un langage un peu curieux à mon avis. Cette vraie dévotion est si agréable à mon divin Fils qu'il ne peut contenir son amour. C'est-à-dire qu'il ne peut empêcher son amour de se déverser sur nous. Hein. Les pécheurs s'approcheront, dit la Sainte Vierge, plus vite par cette dévotion que par d'autres. Vous avez été persécutés pour cette dévotion. C'est assez, ne craignez pas, votre chemin ne sera pas rempli par tant d'épines comme vous le pensez. C'est cette année que le cœur de Jésus veut faire beaucoup de choses pour moi. Alors après plusieurs mois à l'Hôtel Dieu de Montréal, Emma Curotte laisse son rêve inachevé. De son lit d'hôpital, le 23 août 1961, elle écrit à une dame « Je suis contente d'avoir été choisie par la Sainte Vierge pour cette œuvre. C'est moi qui ai souffert pour cette œuvre. Beaucoup de nuits, j'ai eu froid, toute seule dans ma demeure. Merci d'avoir été dimanche à la chapelle de Marie Reine des Cœurs. Plus tard, je vous le redis de mon lit d'hôpital ici à Montréal. Il y aura une basilique là-bas, à Saint-Théodore de Chersey. » Et Emma Curotte est morte quelques mois plus tard, en somme quelques minutes après minuit dans la nuit du 23 au 24 décembre 1961, à l'âge de 71 ans. On dit qu'elle repose au cimetière de la Côte-des-Neiges, à Montréal. Et l'impression que l'on peut avoir, après tout ceci, c'est que Emma Curotte aura été une illuminée qui a donné beaucoup de maux de tête aux autorités ecclésiastiques, ou bien qu'elle a été réellement inspirée d'en haut. Une femme simple, et que les autorités humaines se sont trompées à son sujet. C'est normal, faut pas s'en faire. Et ni l'un ni l'autre, peut-être. Qu'est-ce que c'est? Il reste hors de doute que son cas manque de la transparence que on pourrait souhaiter. Ça nécessite des éclaircissements. Il faut savoir que les révélations privées ne sont aucunement cautionnées par l'Église. Toutes les révélations privées, là, l'Église n'endosse jamais ça de façon ferme comme étant l'Évangile. L'Évangile est clos. Le Nouveau Testament est clos. Les Écritures sont closes. Depuis ce temps-là, il y a des révélations que l'on peut lire, en tirer profit, mais avec prudence. Et le jugement que l'Église se borne tout au plus à déclarer, s'il y a lieu, qu'elle n'y trouve rien de contraire à la Sainte Bible, à l'Écriture ou à l'enseignement catholique. Et même dans celle qu'elle reconnaît comme lourde, la foi n'est jamais engagée. Il est de foi que Marie est immaculée dans sa conception. Parce que l'autorité infaillible du pape l'a définie pour l'Église universelle, il ne l'est pas. Bien que l'Église accepte la déposition de Bernadette et en fait même une fête le 11 février, en rappelant les apparitions de Lourdes, que Marie ait dit à cette petite bergère « Je suis l'Immaculée Conception », c'est que toute révélation privée peut être inconsciemment tachée d'erreurs humaines, les voyants mêlant dans leur dire des choses de leur fond personnel et de leur subconscient. Alors soyons prudents, mais apprécions ce qui se déroule à Chersey, c'est ce dont je vais vous parler tout à l'heure. On peut dire avant de terminer que Mademoiselle Emma Curotte a été une personne vertueuse. Et chose intéressante, elle l'a été sans ostentation, sans supercherie. Elle a cru à une mission, le temps fait son œuvre. L'autorité ecclésiastique, les évêques, ont été prudents. À l'époque où cela a commencé, vers 1930, il y avait énormément d'apparitions mariales dans une trentaine de pays. Et de 1928 à 1961, les années mêmes où Emma Curotte avait ses messages, On sait qu'il y a eu 210 apparitions publiques de la Sainte Vierge pour lesquelles les jugements, soit de Rome, soit de l'évêque local, ont été négatifs pour 36 d'entre elles, et d'autres avec beaucoup de réserves, d'autres enfin pour lesquelles il n'y a eu aucun jugement. L'Église est prudente et heureusement qu'elle l'est. Et le cas Curotte semble clos depuis un dénouement du 22 août 1993. Il n'y a aucun intérêt, sauf pour l'histoire, à poursuivre l'étude. Parce qu'un examen sommaire de ces messages montre que ces messages n'apportent rien de spécial. Je les ai lus, ça n'apporte rien de spécial à la dévotion mariale. Même que je dirais que plusieurs points me soulèvent des interrogations quant au contenu. C'est l'avis aussi du père Henri-Marie Guindon. Tout est maintenant rentré dans l'ordre, on peut dire. Et se sont installés les moines de Bethléem et de l'Assomption. Ce sont des moines qui ressemblent beaucoup aux chartreux et qui vivent comme des chartreux et des chartreuses. C'est l'ordre le plus sévère, le plus difficile de l'Église. C'est là qu'est installé aussi l'informateur catholique, ce journal, qui a de très bons points et que je ne saurais trop vous recommander. J'ai toujours été abonné et j'en suis heureux d'une grande partie des articles. Et justement, un jeune qui est séminariste maintenant et qui n'a que 22 ans avait publié au début de l'année ici, avant d'entrer au grand séminaire récemment, Christian Leclerc, un très bel article en première page du nouvel observateur, pardon, de l'informateur catholique, numéro du 28 janvier. Fondatrice du sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Dès 1931, Emma Curotte applique les grands courants de l'Église aujourd'hui. Et son article est extrêmement intéressant, c'est une entrevue avec le père Roland Barrette, père des Saints-Apôtres, qui est responsable du centre diocésain Marie-Reine des Cœurs de Chersey. Mais on écrit là-dedans que Emma Curotte ne laisse rien au hasard. Elle a des exigences précises pour ceux qui prendraient la relève. Elle voulait que Marie-Reine des Cœurs demeure un lieu de pastoral. Et en 1992, quand Monseigneur Lucier, l'évêque de Joliette, a demandé si l'on pouvait accueillir sur le site les moines et les moniales de Bethléem et de l'Assomption de la Vierge, eh bien le Conseil général de la communauté des Pères des Saints-Apôtres a dû faire un discernement. Il a reconnu ce projet immense et extrêmement important comme étant du charisme du fondateur qui voulait, fondateur Père des Saints-Apôtres, je vous ai fait une belle émission sur le père Eusèbe Ménard, un franciscain. On peut l'obtenir, d'ailleurs. Alors, ils ont reconnu comme étant du charisme du fondateur, le père Ménard, qui voulait que ce lieu devienne un lieu de prière perpétuelle où les gens grandissent dans la prière et l'adoration. Cette demande constituait le complément de la dimension apostolique, car ce complément, c'est un complément purement contemplatif. Et le Conseil a donc cédé à la communauté des ermites, car ce sont des ermites, oui, des gens qui vivent seuls, séparément, dans des petites maisons. Ils sont 23 moniales, 8 moines. Il y en a des Québécois, Québécoises, qui sont partis pour l'Europe pour faire leur noviciat. Alors, ils érigent donc 2 monastères. Lors de son installation à Chersey, dans une ferme mal chauffée, Mademoiselle Curotte n'aurait pu deviner l'ampleur qu'allait prendre son œuvre. Elle venait ici pour prier. C'est l'expérience spirituelle de départ qui avait été assez forte pour la mobiliser toute sa vie, qui l'a amenée à dire « il faut faire quelque chose pour la Vierge ». C'est le responsable, le père Roland Barrette, qui parle. Il dit aussi « elle accueillait les gens ». Voulait les aider, leur montrait à prier Marie. Au fond, elle recevait spontanément. Elle amenait les gens prier. Elle amenait les gens prier. Il dit aussi, je trouve, que dans la générosité, l'esprit de pardon, d'humilité de cette femme, il y avait tout. Il dit, elle a vécu l'esprit des béatitudes de façon exceptionnelle. La Vierge l'a invitée à faire quelque chose pour elle et ça a tenu 65 ans. C'est le 65e anniversaire cette année. Ça ne peut pas venir des humains, dit le père Barrette, il faut que ça vienne de Dieu. Et je suis bien d'accord avec lui. Mademoiselle Curotte aurait eu 100 fois raison de démissionner et de s'en aller. Dans le peu d'écrits que nous avons d'elle, elle évoque j'étais seul. Je souffrais. Je pleurais. Puis j'étais réconforté par la foi, par la prière, par Marie. Le père Barrette considère que Marc-Curotte a pressenti les grandes intuitions de Vatican II. D'abord, par son implication personnelle. En 1931, qu'une femme, une laïque, dise « Je veux être éducatrice de la foi. Je ne suis payée ni par l'Église ni par l'État. J'y crois assez pour m'investir et le faire gratuitement. » Combien je la comprends, c'est ce que je fais aussi, je sais. C'est formidable, la place des laïcs de plus en plus. Ne disons pas n'importe quoi parce que nous sommes laïcs. Soyons fidèles à l'Église. Le père Barrette dit c'était une femme extraordinaire, sa relation à Dieu était son oxygène. C'est ça qui l'a tenue, sa vie de prière. Elle passait des nuits en prière dans la chapelle. Elle a sûrement vécu une dimension contemplative. Elle a pris au sérieux son baptême. Oh, il y a eu des critiques. J'ai entendu des choses, des gens qui disaient « On lui apporte des choses qu'elle gaspille. » Et elle les gaspillait pas. Elle donnait aux plus pauvres. Elle a accueilli des gens de toutes sortes qu'elle gardait ici pour les héberger. Elle n'avait pas d'argent, mais elle hébergeait ces gens. Et voilà qui est cette femme. Elle avait aussi un dialogue écuménique avec des Anglicans tout près, qui offraient même des honoraires de messe en l'honneur de la Sainte Vierge, des Anglicans. Et le père Barrette termine en disant, « Pour moi, cette femme-là, c'est une prophétesse qui a annoncé les grandes intuitions de Vatican II. » Dans la revue Communio, on écrivait, il y a déjà près de 20 ans, « Depuis 1951, l'Esprit Saint pousse la fraternité de Bethléem, les moines et les moniales, surtout les moniales qui ont été fondées en 51, à vivre dans la prière silencieuse et liturgique. » L'amour fraternel, l'étude et le travail, en solitude, en communauté, avec les adorateurs que le Père cherche. Et elles écrivent, elles, ce qui nous brûle au plus profond, c'est de recevoir l'Esprit, et en lui, de connaître le Père et le Fils, de demeurer en un Dieu qui est tendresse, et de lui devenir semblable. Voilà le but de ces femmes, de ces hommes. Ô Marie, comme vous, je voudrais vivre d'un long regard qui s'attache à Jésus. Je voudrais respirer la prière, en respirant l'amour, dans la joie d'être à lui.